Bonjour, bonjour à tous. Bon, comment allez-vous d'abord? C'est bon pour tous? Bien? Alors maintenant, on a remplacé moi. Imaginez-vous que c'est Jésus qui vous dit. Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs. Rappelez-vous qu'on vient louer le Seigneur. Il est là. Des fois, on ne prend pas conscience, mais moi, je me rends compte que voilà, qu'il faut voir à Dieu. À lui, pas à la personne qui est là, parce que nous, on est des subtils, simplement. Aujourd'hui, voilà, je reprends un sujet que des fois on a oublié, mais d'abord, on va prier, voilà, pour que Dieu prenne le contrôle et que ce soit lui qui parle, pas moi. Seigneur, d'abord, je te remercie, Seigneur, pour ces jours, Seigneur, pour une opportunité de plus que venir ici, Seigneur. On a, Seigneur, la liberté, Seigneur, d'écouter ta parole, Seigneur. Il y a aussi des sœurs, des frères, Seigneur, qui sont passés cette liberté, Seigneur, que nous on a. Que on a toujours dans notre temps de grâce, Seigneur. Que c'est par ta grâce qu'on est toujours vivant. C'est par ta grâce, Seigneur, qu'on est toujours ici, Seigneur. Ouvre nos esprits, Seigneur. Ouvre nos pensées. Ouvre nos yeux. Nos oreilles, Seigneur, afin de pouvoir, Seigneur, comprendre ta parole, Seigneur. Comme dit Damien, Seigneur, qu'on prépare notre cœur, Seigneur. Que ton amour, Seigneur, arrive, Seigneur. Qui arrive d'abord dans nos pensées, mais après que ça descende dans nos cœurs, Seigneur. Afin de le pratiquer, Seigneur. Et de montrer au monde, Seigneur, ta gloire. Merci, Seigneur. Bon. Et aujourd'hui, je vais voilà, prendre le sujet, le secret de l'évangile. Voilà, tout le monde ici a reçu le Seigneur. Ça fait longtemps, je ne sais pas combien de temps que vous êtes voilà, venu au Seigneur. Et voilà, on a commencé. Tout le monde, le premier amour, comme on dit, des fois, voilà. Qu'on reçoit le Seigneur, on est content, on essaye de faire beaucoup de choses, d'appartenir à un ministère, de, voilà, de mettre en pratique nos dons. Et des fois, au fur et à mesure, on perd la perspective, ou sinon, on est consumé par la vie quotidienne, le travail, l'université, les enfants, les papiers, les problèmes, beaucoup de choses. Et des fois, on commence à se refroidir. Et tout, voilà, c'est voilà, cette passion que peut-être qu'on a vue au début, ça commence à descendre. Ou sinon, on est fluctuant. On monte, on descend, on monte, on descend. Contrairement, nous, on doit toujours monter, toujours de niveau. Et des fois, on se dit, qu'est-ce qu'il se passait? Pourquoi? Et des fois, on vient, on résiste, enfermé, entre quatre murs, et on a oublié la chose plus importante, pourquoi on est ici, pourquoi on était sauvé. Et on oublie notre but, notre cible, que c'était d'aller au monde pour prêcher aux personnes. Et on va voir, voilà, on va voir la meilleure personne, voilà, qui a mis toujours l'évangile en pratique. Il y a beaucoup, bien sûr, dans la Bible. Mais on va y aller dans l'histoire de Paul et Silas. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire, je pense que oui. Mais on va la voir dans un contexte différent, peut-être. Mais voilà. Ça, c'est. On va résumer l'histoire rapidement, mais après, on va rentrer dans le détail, dans la parole. Ça, c'est Paul et Silas, voilà, ils sont en train d'évangéliser. Ils sont évangélisés, voilà, dans une ville. Après, le Saint-Esprit a dit non, ici non, il faut que tu changes de ville. Ils ont changé de ville. Après, Paul a été appelé d'aller en Macédonie, à la ville de Philippe. Voilà, il est allé là-bas. Et là, ça va se passer quelque chose d'extraordinaire. On va voir qu'il aura un gardien voilà, du prison qui va venir se prosterner devant eux et demander d'être sauvé. Il va venir en pleurant, en disant « Qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé ?» Comme ça, avec cette passion, une personne non convertie va demander ça à la fin. Mais on va y aller directement à la parole de Dieu. Pour trouver cette histoire, il faut y aller dans le livre des Actes, chapitre 16, du verset 16 au 18. On va le lire. Voilà, vous l'avez dans l'écran. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, un jeune esclave qui avait un esprit de divination est venu à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu, très haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul a rassé, s'est retourné et a dit à l'Esprit, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle, il est sorti au moment même. Wow. Voilà, on voit le contexte, comment ça se commence, imaginez-vous, ils sont en train de prier, il voit qu'il y a une personne, voilà, c'est un esclave, qui faisait la divination, voilà, je ne sais pas, c'est comme, ça existe beaucoup, les personnes qui lisent les lignes de la main, voilà, les tarots, voilà. Là, et ça, c'est un esprit qui est derrière. Et là, c'est un esprit de divination. Voilà. Par contre, même les esprits connaissent les personnes qui sont chrétiennes, les personnes de Dieu. Vous vous rappelez, les démons connaissaient à Jésus. Ils disaient, ah oui, je te connais à toi, mais à lui, non, mais à toi, je te connais. Et là, qu'est-ce qu'il disait? Toujours, tu imagines qu'ils sont en train de prier. Oui, ils sont les enfants de Dieu. C'est eux qui ramènent voilà, la bonne nouvelle. Voilà, il disait toujours ça. Tous les jours. Mais Paul, voilà, parce qu'à un moment, il s'énervait, comme il dit, il était agacé qu'il fait sortir l'esprit d'elle. Mais voilà, pour l'instant, on dit, bon, ça c'est normal, voilà, ça s'est passé quelque chose. Pour l'instant, il n'y a rien de grave qui s'est passé. Mais on va voir les conséquences qu'il va avoir cette action. On continue. Dans le verset 19 au 21, quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gang, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant : ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qui ne nous sont pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes romains. Wow. Paul vient de libérer quelqu'un voilà, qui oppressait avec un esprit de divination. Et qu'est-ce qu'il se passait? Ils sont ruinés l'affaire de cette personne, de l'émettre, de l'esclave. Voilà, parce qu'il ne peut plus deviner. Voilà, les profits, ils se sont énervés, ils se sont dit, bon, ok, ils sont pris à Paul et Silas, ils se sont dit, ils le ramènent vers la place. Vous voyez, on essaye de faire quelque chose de bon. Et regarde le prix qu'on est en train de prier, on libère une personne d'un démon, et on le ramène, et en plus, ils vont être jugés, mais ils vont être... Voilà, comme on dit, ils vont avoir une punition, sans avoir un jugement, voilà, précédent. Mais c'est bizarre. On juge directement la personne sans qu'elle se défende. On continue. Verset 22-24. La foule s'est aussi soulevée contre eux. Et les juges ont fait arracher le vermont et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, les gardiens les ont jetés dans la prison antérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Voilà. Là, on voit Paul et Silas. Son droit à un procès équitable, son faire des appels, ils ont été fouettés en public, déshabillés, flagellés. Imaginez, ils sont en train de prier, d'évangéliser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On les a habillés, on les a flagellés. C'est un prix cher à payer, des fois. Et ils sont des innocents. Et le gardien, voilà, de la prison, on dit, voilà, il faut que tu le ramènes et que tu surveilles à eux. Mais, voilà, le secret, voilà, comment on doit réagir, nous, après les faits qui vont passer. Parce que j'imagine que tout le monde dirait, on est des innocents, un innocent crie. Il dit, non, parce que c'est pas juste. Ils sont grandis, là. Ils ont simplement été amenés à la prison. Mais on va voir surtout la réaction, le comportement. Comment on doit agir à une telle situation, circonstance. Ils n'ont pas péché. Parce que des fois, on dit que les choses arrivent parce que, voilà, on est des pécheurs et c'est les conséquences du péché. Des fois, moi, quand j'étais dans l'église, on pensait que tu avais quelque chose du mal. On te dit, tu as péché, tu as fait quelque chose du mal. Et moi, j'étais élevé comme ça. D'avoir un évangile qui disait, si tu as quelque chose qui t'arrive, c'est parce que tu as péché. Et tu dois savoir ton péché, comme à Job. Quand Job, il avait des choses, que, voilà, il traversait des situations difficiles. Ses amis qui lui ont dit, ah, son épouse, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que des fois, c'est vrai qu'il a des conséquences pour le péché. Bien sûr, il a un prix. Mais des fois aussi, il a les circonstances de ses profs qu'on doit passer. Et on doit comprendre ça. Si il passe de ses profs, c'est par quelque chose, il a un but, il a un propos. Mais qu'est-ce qu'il se passe après? On continue dans le verset 25 au 27. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Priaient, chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Il faut garder bien le contexte. Les prisonniers les écoutaient. Qu'est-ce qu'il se passait après? Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes sont immédiatement ouvert et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Voilà. On voit le contexte. On voit deux personnes innocentes qui ont été punies, flagellées. Elles étaient humiliées parce qu'elles ont arraché les vêtements devant le public. Je pense que le gardien de la prison, il a vu tout ça parce que c'est lui qui les a ramenés. Et qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a écouté? Les deux personnes commençaient à prier. Des fois, si tu te rends compte, il vient de passer le pire moment de sa vie à la place de se plaindre, de pleurer, parce qu'il avait le droit de pleurer. On a le droit de pleurer. Mais non, il chantait. Il priait, il louait le Seigneur. Et tout le monde écoutait. Et là, c'est le tremblement de terre qui passe, qui arrive. Et là, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui ça peut servir de réflexion à vous. Je vais l'entendre d'un pasteur voilà, de la famille de ma femme. Et là, ça m'a attiré l'attention la première fois que je l'ai entendu, je l'écoutais. On parle de... Il avait une fille, voilà, il avait un père qui, sa fille, était toujours... Il avait des problèmes toujours. Des fois, voilà, il résout... Voilà, il a un problème que ça s'est passé, c'était courrier, mais il avait un autre qui venait tout le temps, il avait des soucis, des problèmes. Et... Elle va faire une expérience avec elle. Elle lui dit, voilà, tu me ramènes trois choses. Alors, une carotte, un œuf et des graines du café. Elle a dit, ok, on va mettre la carotte, l'œuf et les graines du café. Elle a dit, maintenant, voilà, va dans une casserole, dans une marmite, je sais pas quoi, voilà, tu mets de l'eau chaude, il faut le faire bouillir là. Okay. Et tu vas mettre. Dans chaque casserole, on va prendre trois marmites, trois casseroles, tu vas mettre voilà, la carotte, l'œuf et les grains de café. Je dis, ok, il comprenait à quoi, qu'est-ce qu'il va prendre. Quand il voit la carotte, son père lui dit, qu'est-ce que tu vois? Oui, la carotte, elle était dure au début, mais maintenant elle est tout tendre, prêt à se casser. L'œuf, il était à l'extérieur dur, mais à l'intérieur, il a un liquide malléable. Et maintenant, à l'intérieur, il est dur aussi. Oui. Et le café, voilà, c'est combiné avec l'eau, voilà, on voit le café, ça sent bon. En plus, il dit, j'ai envie de le prendre en un tas de café. Il a dit, voilà, je vais te dire, l'eau chaude, c'est les circonstances que voilà qu'on va traverser. Et là, on va voir comment on réagit. La carotte, ça veut dire que voilà que tout est santé dur. Dit non, je suis, il y a la confiance en Dieu. Mais à la première circonstance, à la première difficulté, on va devenir faible. On était dur, mais il est devenu faible, prêt à se casser. Il va tout le temps se plaindre. De sa douleur, de sa maladie, de son problème, de sa situation économique, de ses papiers. Ça, c'est un type de personne, comment ils vont réagir. L'offre à l'extérieur aussi, tu vois, une personne forte. Mais à l'intérieur, c'est il y a un liquide malléable. Mais qu'est-ce qu'il se passait quand il traverse une situation difficile? À l'intérieur, on devient dur. Parce que des fois, quand on passe des situations, on est dur, on commence à avoir un corps très dur. Pourquoi? Parce qu'on dit, pourquoi je dis ça? Je ne mérite pas ça. Et des fois, on s'éloigne de Dieu. Et c'est ça que ça commence la rébellion. parce que notre corps s'endurcit. Mais les graines de café, qu'est-ce qu'il se passait avec les graines de café? Avec l'eau chaude. Ils ont fusionné, il a transformé l'eau chaude en quelque chose agréable, avec un bon parfum. C'est là où le café va prendre son splendeur. C'est à ce moment-là qu'il va sortir son parfum. C'est comme nous, notre vie. Nous, qu'on dit que notre prière, il monte comme un parfum vers Dieu. Ça, c'est comment tu vas réagir devant une situation. Comment tu vas réagir? Comme une carotte? Comme un œuf? Ou comme les graines de café? À vous de réfléchir. Parce que nous, on dit, Dieu nous guérit d'une maladie. Et nous disons, Dieu est bon. Dieu nous donne les papiers. Nous, on dit, Dieu est bon. On était payé par l'assurance parce qu'on a eu un accident de voiture. Je ne sais pas. On dit, Dieu est bon. Mais je vous pose une question. Si tu as encore la maladie, si tes papiers sont, tu ne crois pas par tes papiers voilà, qui vont venir, si ta situation reste pareille, est-ce que Dieu est toujours bon? Est-ce qu'il est toujours bon ou pas? Dieu est toujours bon. N'importe la situation, lui, il est bon. Pendant les jours de provision, les jours de récession, Dieu est le même. C'est comme dans l'histoire de José, où il a le rêve de les sept hommes où il avait les vaches laides et les vaches grosses. Dieu est le même. Qu'il soit des bons jours ou des mauvais jours, Dieu est le même. Il va rester dans son trône. Il est toujours bon. Mais nous, des fois, on le mesure par rapport à nos bénédictions, par rapport à nos vies. Et c'est ça qu'il va nous montrer Paul et Silas dans cette histoire. Que malgré que c'était dans une situation, ils étaient enfermés dans une prison, innocents. Ils étaient humiliés, flagellés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle attitude? Ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir, un chrétien doit avoir l'attitude de prier, de chanter, de louer le Seigneur. Et des fois, c'est ça qu'on oublie. Parce que nous, mesurons à Dieu par rapport à nos bénédictions, par rapport à comment se sent dans la vie. Qu'est-ce qu'il dit Paul dans Romains 8, 28? Des fois, on oublie ça. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes les choses aident pour le mieux. On va voir des circonstances. C'est comme l'histoire de José. Il est passé par des circonstances. Des fois, il s'était puni, il est devenu un esclave, il était sous prison. Mais c'est des situations provisoires. Ça, c'est comme les quatre saisons. Dans l'année, on a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Mais c'est temporaire. Ça, c'est passager. Il y aura toujours un été. Il y aura toujours un hiver. Parce qu'on doit traverser l'hiver. Des fois, on n'aime pas la pluie ici. On est au nord. On dit, oh, ici, il pleut. Tout le monde se plante. Et là, le film, le Ch'ti, qui te montre voilà, que tu rentres à l'île, psh, la pluie. Mais c'est ce qu'on ne voit pas ici, que ici au Lille, c'est vert. Moi, où j'habite, il a, soit c'est le printemps, c'est l'été. Et tu vois que tout est orange. C'est le désert. Moi, j'aimerais voir la forêt, des arbres partout. Et l'île, c'est vert. C'est quelque chose que vous savez, que des fois, on ne prend pas conscience que c'est Dieu qui te le donne. Des fois, on est tellement, tellement submergé dans le monde qu'on ne voit pas les détails de la création de Dieu. Parce qu'on a perdu ça. Mais Paul aussi dit au peuple de Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, du verset 17 au 18, qu'est-ce qu'il dit? Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nos afflictions du moment produisent un poids éternel de gloire. Dieu, des fois, permet qu'on passe des épreuves parce qu'il veut te fortifier. Mais des fois, on ne comprend pas ça. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Mais Paul dit aussi au peuple philippien, et je voudrais que vous écoutez ça et que vous le ramenez aujourd'hui, que le prenez ici. Dans Philippiens chapitre 4, verset 11 au 12. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Je le mets en jaune pour attirer votre attention. Car j'ai appris à être contente de l'état où je me trouve. J'ai appris. C'est pas que tout va. Il faut apprendre. Je me rappelle que mon pasteur me disait, il faut que tu sois souriant. Il faut apprendre. Tu dois pratiquer ça. Il me disait, fais comme ça. Mais si, non, fais comme ça. Et je le faisais à tout le monde. Allez, fais comme ça. Vous êtes ici. Où? À la maison de Dieu. Où est votre joie? Parce que des fois, on rentre triste. Je sais qu'on a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Moi, j'ai des problèmes. J'ai encore des problèmes maintenant. Mais je sais à qui j'ai la confiance. Et je sais que ça, c'est des circonstances passagères. Mais j'ai pratiqué à sourire tout le temps. Ce n'est pas l'hypocrisie, attention. Sinon, mon fondement, c'est le Seigneur. Et c'est lui qui change ma tristesse en joie. Et il faut que vous le testez aussi. Parce qu'ici, on vient pour louer, pour chanter à Dieu, comme dit Damien. Parce qu'il te dit, je t'aime. Depuis combien de temps que tu ne dis pas à Dieu, je t'aime, Seigneur. Parce que c'est bien de louer. C'est bien de chanter. Mais comme le dit Damien, ce n'est pas un support. Il faut que ça sorte de ta bouche. Il faut que tu ouvres ta bouche. Que commence comme a fait Paul et Silas à prier, à chanter nous-mêmes. Sans besoin d'avoir un support, comme on dit. Sans avoir la musique. On continue, c'est ce qu'il dit. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout, Et partout, qu'est-ce qu'il dit encore? J'ai appris. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et après, voilà le verset qui suit. Ça va s'exécuter, sauf si tu as fait les deux précédents. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est à ce moment-là qu'il s'active. Mais tu dois prendre. Quelle que soit ma situation, le contentement est une compétence acquise, pratiquée exprès. Comme quelqu'un qui pratique le piano. Tu ne prends pas le piano comme ça. Tu dois pratiquer. Tu dois pratiquer aussi, pareil. Tu dois pratiquer à sourire, à être contente, à parler, à louer à Dieu. Dieu, il attend comme c'est comme un père. Un père, tout le temps, surtout les femmes, ils aiment bien que les enfants lui disent qu'est-ce qu'il se passait. Mais ça va, comment c'était à l'école? Bon, ça va. Tu te mérites que ton fils te raconte beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passait toute la journée? Tous les détails, avec qui tu as rencontré, le premier jour de la rentrée, tu as trouvé des amis, mais ça va? Ça va. C'est ça. On est des enfants. Non? Mais on a c'est l'orgueil des fois, je ne sais pas quoi. Mais quand on refroidit, on ne dit rien du tout. Quand on doit dire beaucoup de choses, on doit remercier à Dieu pour tout. Et des fois, il y a des personnes aussi qui disent, oui, je ne suis pas guéri, je suis toujours malade. Mais pourquoi? J'aimerais avoir une explication. Parce que des fois, on ne comprend pas. C'est ce qui nous arrive. Les problèmes, la rébellion d'un enfant, la dispute avec ton conjoint, problème économique. Et on ne comprend pas pourquoi, si on est fidèle. Mais je veux une explication. Au moins, comme ça, voilà, je suis soulagé. Mais si ta confiance, est-ce que si on te raconte l'explication, ça va changer quelque chose en toi? C'est-à-dire que tu as ton assurance, c'est une explication. Et tu ne mets pas la foi vers Dieu, tu n'as pas la confiance vers Dieu, parce que tu as besoin de quelque chose. Des fois, on aura une réponse pourquoi Dieu fait ça. Mais des fois, on va mourir et on ne saura pas pourquoi Dieu a fait ça. Parce que notre connaissance est limitée. Mais sa connaissance à lui est infinie. Toujours, je dis les exemples des enfants. Des fois, tu le donnes un bonbon à un enfant. Il est toujours content. Tu le donnes un chocolat, il est content. Mais tu ne vas pas le donner du chocolat le même jour. Parce que tu sais que c'est mauvais pour lui. Des fois, tu empêches de sortir une soirée, parce que tu sais qu'est-ce qu'il y a derrière. Dans une boîte de nuit. Mais l'enfant, il ne comprend pas. Il dit, pourquoi? Mais c'est bon. Parce qu'il croit comme c'était quelque chose du bon. Voilà, à ce moment-là, il ne comprend pas. Quand il est grand, quand il devient père, il dit, ouais, maintenant je comprends mes parents. Des fois, on aura une explication. Mais des fois, non. Et c'est pour ça qu'il faut... Ils n'ont pas demandé une explication à Dieu pour les Silas. Ils n'ont rien dit là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va louer au Seigneur. On va prier. Ils n'ont pas pensé aux prisonniers. Ils ont dit, nous, on est là. On doit montrer qu'on est différent. Et c'est ça qu'on a oublié, notre identité. On a peur de louer. Je dis tout le temps à mes enfants, il faut prier toujours. Quand tu es à la cantine, mais si tu es la seule personne, tout prix. Parce que c'est important. Et nous, qu'on soit la différence. Nous, on dit qu'on est la lumière et le sel. Sinon, tu es pareil partout. Et tout le monde a peur. Parce que des fois, c'est un prix à payer. Tu vas perdre des copains. Oui, peut-être. Mais qui est plus importante? Dieu, ta famille, tes copains, ton travail, ton époux, tes enfants. Mais voilà, c'est ce que je voulais que vous voyez. Maintenant, je me mets à la place du gardien de la prison. Il voit deux personnes qu'il ramène, innocents, qui ont été flagellées, humiliées, voilà. Il s'est dit, ces deux personnes-là, ils n'ont aucune raison logique de prier, de louer le Seigneur, et ils les écoutent. Il dit, il doit se plaindre, il doit demander l'innocence. Je me mets à la place du gardien. Et après qu'il prie, il voit le tremblement de terre. Qu'est-ce qu'il se passait? Il a eu peur. Et quand il se réveille, il pensait que tout le monde est parti. Voilà, tout le monde était sorti parce que... Non. Il demande une lumière, il vient vers Paul et Silas. Il se prosterne devant eux. Et il demande d'être sauvé. Parce que j'imagine qu'il a dit, comment je... a pu avoir deux personnes qui réagissent comme ça devant telle situation. Mais qu'est-ce qu'il répond Paul? Dans verset 28 au 30. Mais Paul a crié d'une voix forte. Ne te fais pas du mal, car nous sommes tous ici. Nous sommes tous ici. Alors, le gardien a demandé de la lumière et entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Une personne non croyant, non converti. C'est ça l'impact que peut avoir une personne non convertie. Quand une personne voit comment on réagit devant telle situation, parce que des fois tu peux te trouver dans la même situation que lui, au pire, mais il voit ta réaction. C'est ça qui impacte un non croyant, ton témoignage. Parce que si tu es triste toujours pareil, il va dire, c'est quoi la différence alors avec moi? Si tu es toujours en train de te plaindre pour tes problèmes. Mais c'est ça la différence. J'avais entendu une anecdote qu'avait fait Charles Chaplin, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un comédien américain. Très connu, je crois que les personnes qui sont plus de 50 doivent les connaître. Mais j'ai entendu une anecdote. Il faisait une présentation. Il a fait une blague. Tout le monde a rigolé. Mais ensuite, il fait la même blague, une deuxième fois. Et la moitié du théâtre a rigolé. Et l'autre moitié, c'est comme ça. Il a fait encore la même blague, une troisième fois. Et tout le monde est resté en silence. Et lui regarde. Il dit au public, j'ai fait trois fois la blague. Vous avez rigolé une fois. Pourquoi vous n'avez pas rigolé encore une fois pour la deuxième ou la troisième? Par contre, comme... vous êtes en train de souffrir, comme voilà, vous êtes dans la souffrance, vous pleurez tout le temps, encore et encore et encore, pour le même problème, pour la même souffrance. Alors pourquoi vous ne rigolez plus encore ? À réfléchir. Pourquoi vos proches ne se convertissent? Ne se convertissent-ils pas? Voilà. Pourquoi vos proches restent pareils? Parce que simplement, ils vous parlent à vous heureux. Ils ne trouvent pas la paix en vous. Nous, on manifeste la gloire de Dieu. Je me rappelle que c'était pareil avec mes parents. Au début, j'étais chrétien. Mais il n'y a pas de changement. C'est au moment quand tu vas attendre d'une personne qui te dise « Ah, j'aimerais bien avoir la paix que tu as. Oh, je te vois toujours contente. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es comme ça? Je ne comprends pas. » Et c'est à ce moment-là qu'on ne se rend pas compte que nous, on est de l'être vivant. Et nous, on doit ramener toujours la gloire de Dieu. Mais si tu es toujours pareil, les autres vont dire, bon, il est chrétien, mais pareil. Et on sait, nous, qu'on est une nouvelle créature. Et au moment qu'on reçoit le Seigneur, il y a une transformation. Bien sûr qu'on va avoir encore des problèmes, on va pécher, mais il doit y avoir un changement. Et ce changement, tu vas le savoir, pas pour toi. C'est les personnes qui vont regarder quelque chose différent. Et c'est ça qu'a vu le gardien. Il a vu en Paul et Silas. Qu'est-ce qu'ils sont pour prier dans une telle situation? Et le pire, parce que des fois, on se concentre sur le gardien. Mais là, il dit, nous sommes tous ici. J'imagine les autres prisonniers. Ils sont aussi des personnes non converties. Il y a des assassins, des voleurs. Je ne sais pas. Ils pouvaient sortir, mais ils ne se sont pas échappés. Pourquoi? Et en plus, j'imagine qu'on Paul a dit, nous sommes tous ici. Je pense que la personne qui l'a laissé échapper de... s'est dit, oh, non, non, si Paul a dit ça. Tu sais, les personnes, je crois que tu as le respect pour les personnes non converties quand ils voient comment tu réagis dans son, voilà, dans une situation catastrophique, on va dire, ou terrible. Et c'est ça, nous, qu'on doit apprendre pour les Silas. À savoir réagir, à prier, à louer, à ouvrir notre bouche, à être contente, à pratiquer. Il faut le pratiquer. Il n'a pas dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné. Bien sûr que le Saint-Esprit va t'aider à ça, parce qu'on a besoin, ce n'est pas notre force à nous, mais de notre voilà. À nous aussi, il faut aussi prendre la décision, il faut pratiquer, c'est-à-dire c'est nous qu'on doit aussi le faire. Il a dit qu'il a pratiqué, c'est un style de vie. Il a un témoignage que ça s'est passé, il avait un 40 jeunes qui partait dans un retrait des jeunes. Et voilà, ils sont partis. Après, ils sont retournés en bus. Et c'était, voilà, on l'a vu dans la télévision, que ça s'est passé. Il a eu un accident. Un camion, voilà, il y a un accident avec le bus, voilà, où il avait tous les jeunes, voilà, qui ont été, voilà, y aller à Curitiba, je crois, c'était au Brésil. Voilà, c'était pour faire un retrait des jeunes. Du moment qu'il rentrait, voilà, il y a eu l'accident avec un camion. 22 jeunes sont morts. 22 jeunes sont morts. Et le pire, c'était voilà comment ils sont présentés après à la télévision. Surtout les personnes athées, bien sûr, parce qu'ils profitent de ça. Ils ont dit où il était Dieu, pendant que ses enfants louaient et chantaient. Parce que justement, les personnes qui ont survécu voilà, à cet accident disaient qu'à ce moment-là, ils chantaient, ils louaient. Et après, voilà, il y a l'accident. Mais voilà, il dit, ah, où était Dieu pendant que ses enfants chantaient? Et voilà, il louait. C'était un choc terrible. Et là, il avait une fille de 20 ans, où son père était athée. Et que, voilà, elle venait toujours à l'église. C'était la seule personne qui venait à l'église. Et quand il a su son père qu'il était baptisé à l'église, il a dit, bon, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Je ne vais pas te jeter de la maison. Mais si tu as honte de toi-même, il faut que tu pars. Et la fille, elle avait 20 ans. Elle n'avait pas l'argent. Ce n'est pas comme ici qu'on a des 7 voilà, pour les gens qui sont partis à la saison. Et là-bas, non. On n'a pas des 7 voilà, pour... Elle a dû rester avec sa famille. Et ses filles, là, voilà, de 20 ans, c'était une personne voilà, qui était morte dans l'accident. Et les jours voilà, où il avait l'enterrement voilà, de 22 personnes, le père il est venu, mais il a voulu poser une plainte contre l'église. Mais comme c'est une personne adulte de 20 ans, voilà, ça s'est resté juste là. Mais le jour de l'enterrement, voilà, elle pleurait. Mais il voulait dire, non, je ne veux pas que mon fils parte, je voulais y aller avec elle. Et ensuite, voilà, tout le monde part, c'est lui qui reste encore devant la tombe de sa fille. Et après, il y a une personne qui s'adresse, une jeune fille aussi qui s'adresse, qui l'a vue. À lui, il s'adresse. Et c'était la meilleure amie de sa fille. Il s'adresse, il dit, monsieur, je sais que vous êtes très triste. Ouais, mais vous, c'est à cause de vous. Vous êtes des fous. Si ma fille, vous, voilà, ça sera resté encore chez moi, elle sera encore vivant. Mais vous êtes fous, vous. Elle était en colère. Il a dit, oui, Seigneur, je sais, je comprends que votre tristesse. Mais encore, je vois que vous continuez encore ici, devant les 22 personnes, vous continuez à chanter, à prier. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Vous n'avez pas de sentiments. Il a dit, oui, pendant qu'on chante, qu'on lue, on pleure aussi. Mais, nous, on a un espoir. On sait qu'il va ressusciter. Lui, c'est tout. Comment qu'il va ressusciter? Oui, il va ressusciter. La parole dit que les morts en Christ Jésus vont ressusciter. Hein? Elle va ressusciter? Oui. Ah, c'est-à-dire que je peux la voir aussi? Je ne sais pas, monsieur. Comment je ne sais pas? Vous me dites que ma fille va ressusciter. Alors, c'est-à-dire que je pourrais la revoir. Oui, Seigneur, oui. Mais pourquoi alors vous dites, je ne sais pas? Bah, je ne sais pas, Seigneur. Monsieur, si vous êtes mort en Christ, vous avez accepté au Seigneur Jésus-Christ? Il a dit, non. Qu'est-ce que je dois faire? Rien de spécial. Faut accepter qu'il est votre Seigneur et votre Sauveur et donner sa vie à lui. Et il a pleuré. Il ne comprenait pas pourquoi il pleurait tellement. Et il a donné sa vie à Christ. Et ensuite, son épouse et ses sept enfants se sont convertis aussi au Seigneur. Mais je me pose la question après. Je m'imagine que le jour qu'on va tous y aller devant le Seigneur, que sa fille vient, il se retrouve sans famille, et qu'il dit, qu'est-ce que vous faites ici? Vous m'avez humilié toujours. Vous avez rejeté l'évangile. Et que son père dit, grâce à ta mort, à ton sacrifice, nous sommes ici sauvés. Et je finis avec ce verset qui n'est pas dans le slide, dans le flyer, pardon. Josué 1:9. N'étais-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Car l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu vous bénisse. Amen.